Afrika.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce numéro exceptionnel de Mars Africa qui sera consacré entièrement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un numéro qui va suivre dans quelques instants, juste après le Flash Info présenté par Mehdi Bnel.
صباح الخير قرر المغرب والبرازيل إرساء حوار استراتيجي يروم ترسيخ الشراكة المتينة وطويلة الأمد القائمة بين البلدين والتي سيتم تحديد صياغها ومجموعة العمل الخاصة بها لاحقا. وأشاد الطرفان في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت أمس الجمعة بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرازيل ماورو فييرا بالجودة المتميزة للشراكة بين المغرب والبرازيل، مجددين التأكيد على الالتزام لاستثمار الأمثل لمؤهلاتهما الكبيرة خاصة في مجالات الصناعة الغذائية والاقتصاد الأخضر واللوجستيك. أشادت البرازيل في البيان المذكور بدينامية الانفتاح والتحديث التي يعرفها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربة عن تقديرها للدور الريادي الذي يطلع به جلالته في إفريقيا، مما يجعل المملكة شريكا موثوقا به وذات صوت مسموع على الساحة الدولية. أكد رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب بمقاطعة سيشوان أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة وانغ شيهوي على المكانة الاستراتيجية العامة للمغرب باعتبار صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وذكر بلاغ لمجلس النواب أن سيد شاو استعرض خلال مباحثات أجرى أمس بالرباط مع رئيس المجلس رشيد الطالبي العالمي مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، وذلك على الصعيد التجاري وفي مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والنقل والتعليم والبحث العلمي والثقافة وغيرها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة نوعية وتتعزز بالطراد. أجرى رئيس مجلس المستشارين النعم يارا أمس بمقر المجلس مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن المباحثات تناولت على الخصوص السبل والإمكانيات المتاحة لتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. نهاية الموجز، عودة إلى أمين بيروك وحلقة اليوم من مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
Merci Mehdi. Nous allons bien évidemment parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ce sera juste après la pub.
Téléchargez كثر, streamez كثر, العب كثر, تفرج وبارطاجي كثر مع سخاوات اتصالات المغرب. اشترك فورفيات النقال واستفد من رصيد اضافي كيوصل حتى 5 جيجا شهريا لمده 3 شهور. عرض كل سخاء صالح الى غايه 31 غشت. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم.
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Jaza Blanca célèbre sa 17e édition du 6 au 8 juin à Anfa Park et à la Place des Nations Unies. Retrouvez des artistes iconiques pour des concerts mémorables avec Kaleo, Zucchero, James Blunt, UB40 et Paolo Nutini. Du 6 au 8 juin, plongez dans l'univers envoûtant du festival et vivez une expérience musicale unique. Plus d'infos sur jazzablanca.com en partenariat avec Radio Mars.
Courir. Frapper. Lancer. Plonger. Respirer. Tirer. Rater. S'arrêter. Se rater. Tomber. Casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
Merci de votre fidélité à Radio Mars, à Mars Africa. Nous allons bien évidemment démarrer ce tour d'horizon de l'actualité sur notre continent avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est une première escale à Boïkon au Bénin avec Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Dirouk et bienvenue au Bénin. Il fait un beau temps, hein.
Ah ben, il a fait tout aussi beau du côté d'Agadir où l'équipe du Maroc a difficilement battu la Zambie sur le score de 2-1. Une rencontre qui permet aux Lions de l'Atlas de mettre fin à une série de doutes, entre guillemets, après les deux matchs amicaux poussifs du mois de mars contre l'Angola et la Mauritanie.
Bien évidemment, puisqu'il y avait la pression, cette contre-performance hein, en Côte d'Ivoire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec les deux rencontres amicales disputées, Walid Gregory, sous pression, devrait réagir, et c'est chose faite, hein, puisque c'était un match difficile, hein, il faut le dire, puisqu'il fallait s'imposer et rester invaincu dans ce groupe E, et même si le Maroc n'a discuté que jusqu'à présent deux matchs, son troisième match ce soir mardi prochain, toujours à Agadir contre le Congo, même si le Congo devrait être à domicile. Donc, c'est trois points bien pris, hein, il faut le dire, pour la suite de la compétition. Donc, le Maroc s'est bien comporté. La manière importe peu à ce niveau-là, puisque s'il y avait déjà des difficultés, donc il faudrait s'imposer, prendre les trois points, quelle que soit la manière. Et déjà, ce pénalty a permis aux Marocains de se libérer. Puis, le second but, donc vous imaginez, c'est un très bon succès. C'est trois points bien pris pour se mettre en tête et quand même mettre trois points d'avance sur le second, l'adversaire du jour. Il s'agit bien sûr de la Zambie. Donc, vous imaginez, c'est trois points, trois précieux points. Et là, il faut maintenant enchaîner mardi prochain contre le Congo.
Également, belle performance du Bénin qui a battu le Rwanda 1-0, qui se relance dans ses qualifications dans un groupe très compliqué. Hein, très, où c'est le Lesotho qui est en tête. Avec des favoris appelés Afrique du Sud et Nigeria, qui se sont d'ailleurs neutralisés un peu partout.
Le Lesotho, surprenant leader de ce groupe, on n'aurait pas misé une seule pièce hein, sur cette performance-là. Mais bon, le Lesotho s'installe en tête de ce groupe suite à sa victoire en déplacement. Vous imaginez en déplacement du côté de Zimbabwe, même si le match a été disputé en Afrique du Sud. Donc 2-0, le Lesotho s'installe seul en tête dans ce groupe-là. Un point d'avance sur le Rwanda et le Bénin. Le Bénin, justement, qui a vu aussi son match délocalisé à Abidjan, puisque le stade de l'amitié de Cotonou ni le stade de Porte-Novo ne remplissent les noms. Donc le Bénin a le devoir de disputer ces deux prochains matchs à l'extérieur. Le premier match, ça s'est bien passé, 1-0, but du milieu de terrain ancien de Dadje FC d'Aflahoué, qui évolue aujourd'hui du côté dans le championnat égyptien, qui a permis au Bénin de prendre les trois précieux points. C'est vrai que le sport aurait pu être lourd, surtout en première partie où les Béninois ont littéralement dominé la rencontre. C'était une fois encore, sans compter sur la maladresse de ses attaquants, Steve Mounier toujours mieux. Donc vous imaginez, c'est ce côté-là que Guénon Droit doit beaucoup travailler, puisque ça manque de finition en attaque. Le Bénin aurait pu s'imposer 3, voire même 4-0 sur cette rencontre. Mais bon, on se contentera de ces 3 points-là, ce qui nous permet de se relancer dans ce groupe-là où rien ne va pour le moment pour le Nigeria. Le Nigeria qui peine à trouver le chemin de la victoire. 3 matchs, 3 nuls. Et mené par l'Afrique du Sud, les Nigériens se sont bataillés très fort hein, pour pouvoir égaliser. Donc le Nigeria qui est quand même va devoir réagir contre le Bénin, même si c'est à Abidjan. On a vu les Béninois jouer à Abidjan comme s'ils étaient à domicile, puisque c'est une forte colonie béninoise qui réside du côté de la Côte d'Ivoire, non seulement pas à Abidjan mais dans tout le pays. Donc ils se sont déplacés, ces supporters là, pour venir
encourager cette équipe, bien évidemment. On parle de ce duel au sommet entre le finaliste de la CAN et l'équipe qui a terminé au pied du podium. On parle de la
France. Je disais que le Bénin va devoir cravacher très fort face à ces Nigériens qui ont besoin de résultats, un résultat positif afin de se relancer dans ce groupe. En tout cas, vous l'avez déjà dit, un groupe très compliqué où la différence de points ne se justifie qu'à un seul point entre le premier et le deuxième. Le deuxième et le troisième, ainsi que le troisième et le dernier. Donc, même si le Zimbabwe est dernier de ce groupe avec 2 points, rien n'est encore perdu pour lui. Et rappelons que le premier sera qualifié. Donc, c'est une lutte très ample qui sera disputée jusqu'à la dernière journée.
Merci beaucoup, Élisée Onkpatienne. On se retrouve samedi prochain pour continuer à faire le point sur ces qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 avec un Bénin qui s'est relancé, un Nigérien poussif et une Afrique du Sud qui est aux abois. Et puis, la surprise, le Lesotho qui domine ce groupe à la surprise générale. Personne ne s'y attendait. Nous allons aller du côté de Brazzaville, retrouver notre confrère Alphonse Ndongué. Bonjour Alphonse.
Bonjour.
Alors justement, le Congo a déclaré forfait contre le Niger. On connaît cette affaire par rapport à l'homologation du terrain de Brazzaville. La rencontre était initialement prévue par la FIFA à Kinshasa. Aujourd'hui, il y avait le dilemme pour la deuxième rencontre prévue mardi. Elle est initialement programmée également dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mais il y a un modus vivendi ou un arrangement qui a été trouvé entre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise. Le match est finalement délocalisé à Agadir. Comment vous considérez du côté de Brazzaville cette initiative qui illustre peut-être les liens d'amitié forts, la fraternité entre le Maroc et le Congo?
Alors, il faut reconnaître à travers la décision marocaine que là, les deux pays se sont accordés pour que, évidemment, donc ce match se joue à Agadir, mardi prochain. Mais au-delà, il s'agit franchement d'une réelle solidarité et entente à l'africaine. Ce sont des choses dont on a besoin en Afrique parce que on se serait attendu que ce soit le Niger qui engage cette démarche, mais malheureusement le Niger a préféré jouer, comme on dit dans le français subsaharien, au mauvais cœur, en faisant que voilà qu'il engrange 3 points, mais aussi 3 buts. C'était hier, hein, en faisant constater avant-hier le forfait du Congo au stade des Martyrs. Donc je pense que le Maroc s'illustre comme un grand pays en Afrique parce que on sent cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers l'Afrique subsaharienne et des décisions qui franchement font plaisir non seulement aux nombreux supporters des Diables Rouges, mais aussi à tout le peuple congolais.
Ça risque aussi de ne pas fausser un groupe qui a déjà vu le désistement ou le forfait de l'Érythrée et ce handicap qu'a pris le Congo après ce forfait contre le Niger qui risque d'être validé, à moins que la FIFA, puisque pour l'instant, sur le tableau ou au classement général, les 3 points n'ont pas encore été officiellement validés par la FIFA. Il y a peut-être la possibilité de faire rejouer le match ultérieurement.
C'est ce que nous souhaitons pour que, franchement, l'équipe qui va représenter l'Afrique dans cette poule à la prochaine Coupe du Monde mérite que ce ne soit pas sur la base des forfaits. Nous souhaitons, franchement, que la FIFA puisse examiner cette question, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, une part de responsabilité revient un peu sur le plan administratif à la FIFA, parce que la FIFA a bel et bien homologué le stade Bassamba Déba à Brazzaville, peut-être a pris du temps pour ne pas signifier aux équipes des pays aux visiteurs, que le stade Massamba Déba est désormais praticable et homologué et pour que cela ne désoriente pas et le Maroc et le Niger. Donc je pense, c'est peut-être à raison que la FIFA tarde de valider ce forfait, en espérant éventuellement que cela se joue sur le terrain, que dans les bureaux, ou bien ou alors de la manière qui n'est pas conforme, parce que nous on veut voir une équipe africaine qui mérite d'être à la Coupe du Monde, et nous pensons que le Maroc, qui d'ailleurs a une très bonne équipe, qui nous a fait honneur lors de la récente Coupe du Monde, le Maroc, si il le mérite, vous voyez que le Maroc n'accepte pas de passer sur des décisions administratives.
En tout cas, on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de la sélection congolaise qui a été frustrée par le fait de ne pas disputer ce match jeudi? Est-ce que tout l'effectif est au complet en prévision de ce déplacement au Maroc?
Il était au grand complet lorsqu'il fallait éventuellement recevoir le Niger ici à Brazzaville. C'est le même effectif qui a continué son travail de mise en jambe et il n'y a pas de problème, on ne signale pas de bobo. C'est cette équipe qui devrait donc se rendre à Agadir pour affronter les Lions de Dallas.
Merci
beaucoup. Avec espoir que le Congo, pourquoi pas, peut faire aussi un miracle. Hein. On a eu la Guinée allait surprendre l'Algérie, les FENEC. Donc pourquoi pas, nous aussi on peut en faire autant.
On rappelle que le Congo a un petit retard à l'allumage avec une première défaite sur le score de 4-2 face à la Zambie et justement le handicap de ce match face au Niger qui va devoir être homologué prochainement par la commission spécialisée de la CAF. Merci infiniment Alphonse Ndongué et bienvenue dans la famille de Mars Africa. À très très bientôt.
Merci.
Alors, prochain cap, ce sera du côté de Kinshasa avec notre ami Michel Tobo, le Congo, la RDC. Voilà, on est passé d'un Congo à l'autre. La RDC a réussi à accrocher le Sénégal sur le score d'un but partout. Voilà de quoi alimenter des espoirs de qualification pour la Coupe du Monde dans un groupe étrangement dominé par le Soudan, mais où la RDC n'a pas dit son dernier mot. Je rappelle que la seule qualification de la RDC, elle s'appelait à l'époque Zaïre, pour la Coupe du Monde, date de 1974. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci infiniment de m'accorder encore voilà justement ce petit moment pour vous parler voilà justement hein, de cette grande actualité qui sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 hein, avec voilà cette sortie bon on va dire réussie quand même hein, parce que voilà on crache pas sur un point hein, surtout un point pris devant l'une des meilleures équipes africaines pour le moment, les Lions Indomptables. Donc les Léopards ont fait un match voilà assez correct hein, voilà. Bon, il y a quand même beaucoup à faire, hein, on va dire, sur le plan du jeu. Mais l'objectif, bien entendu, de ce déplacement à Dakar n'était pas justement de perdre. Hein, il fallait absolument prendre un point, voilà. C'est un moindre mal pour tenter justement de venir conclure ici. Le dimanche face au Togo, donc c'est déjà bien et psychologiquement c'est un avantage important hein, pour les Léopards ainsi que leur sélectionneur Sébastien Desabre. C'est vrai, c'était un match qui avait très mal commencé pour les Léopards hein, qui ont été dominés, voilà, ils n'ont presque pas eu la possession du ballon tout au long de ce match, mais les changements apportés en deuxième mi-temps ont clairement apporté, parce que le but est arrivé justement hein, sur une passe de Chadra Kakolo qui est entré en cours de jeu et de Fiston Maele, voilà les jokers justement de cette sélection. Sébastien Desabre a déclaré en conférence de presse d'après match, parce qu'il y a eu voilà une question hein, qu'on lui a posée concernant justement le fait que Fiston Maele, qui était très prolifique il y a une saison du côté des Young Africa, il a pris le titre de meilleur buteur hein, il est maintenant du côté de Pyramide. C'est vrai, c'est une saison d'adaptation hein, donc, du côté de l'Égypte. Voilà, il n'a pas réussi à atteindre 10 buts cette saison, mais il en a marqué quand même hein, quelques buts importants pour son équipe. On lui a posé la question de savoir pourquoi Fiston Maele n'était pas titulaire. Il a répondu clairement que l'essentiel pour lui, hein, que Fiston Maele, même s'il joue 5 ou 10 ou 15 minutes, l'essentiel pour lui, qu'il entre sur le terrain avec la ferme conviction que voilà, il peut faire changer un match. Voilà. C'est déjà arrivé à 3 reprises. Voilà. Il est entré, il contre le Soudan lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué et il est entré contre le Gabon, à Franceville, il a marqué également, et là également, il entre encore, voilà, il donne ce point important justement au Léopard face au Léon de la Teranga du Sénégal, tant mieux, s'il est bien en tant que joker, hein, donc voilà, on ne voit aucun mal de ce côté, hein, justement, pour qu'on l'utilise dans ce registre-là, qui permette justement au Léopard de prendre des points. Mais dans l'ensemble, c'était un match, voilà, un peu haché quand même, hein, mais voilà, et on espère que cela va s'arranger lors de ce match de dimanche face aux épervés du Togo, justement pour permettre à cette sélection nationale de la démocratie du Congo de sortir de ces deux journées avec 4 points, voilà, qui permettront justement de bien entamer les deux prochaines journées qui suivront lors de ces éliminatoires. Psychologiquement, ça sera bien parce que voilà, ça fait 50 ans que la démocratie du Congo n'a plus participé à une phase finale de Coupe du Monde et on y tient vraiment. On a raté sous Florent Ibengué lors de la Coupe du Monde 2018. On espère, on croise les doigts, on espère vraiment que ça sera le cas. Le grand obstacle, c'était le Sénégal. On a vu que, voilà, psychologiquement, on était quand même à bon point avec les deux sélections. Donc voilà, on peut en tout cas rêver d'aller de revenir en Coupe du Monde 50 ans après, en tout cas. Voilà, Amine Birouk, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à ce match. On se reverra certainement voilà le samedi prochain pour faire le bilan des deux matchs dans l'ensemble, voilà, pour tenter justement de trouver une conclusion assez plausible justement à ces deux rencontres. Merci à vous, merci infiniment de m'avoir donné à ce petit temps. Merci à tous les confrères qui sont passés ou qui passeront après moi, et merci surtout à l'ensemble des auditeurs qui sont toujours fidèles à nous suivre. Au revoir à vous et bonne continuité.
Et des auditeurs qui prennent plaisir à t'écouter, cher ami. Et on rappelle que la RDC va devoir continuer cette marche en avant dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Congolais, troisième de la dernière CAN, ont réussi donc à accrocher le Sénégal et vont poursuivre l'aventure dans les prochains jours. On va bien évidemment parler du Sénégal, qui lui sera en déplacement en Mauritanie et qui doit peut-être se mordre les doigts d'avoir laissé filer deux points domicile face à la RDC. Justement, Bakary Cissé, bonjour.
Bonjour Doyen, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Nouakchott. Le Sénégal s'apprête à rencontrer les Mouraboudounes de la Mauritanie dans le cadre de la quatrième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Alors, on va faire un petit flashback pour ce match disputé jeudi à Dakar. Un match nul, inattendu face à une RDC accrocheuse, et pourtant Aliou Cissé s'est montré satisfait du rendu de ses joueurs, même si le résultat n'était pas au bout. Comment expliquer cette contradiction, cette dichotomie?
Des regrets, il y en a, même si Aliou Cissé refuse de verser dans la polémique. Ce qui est sûr et certain, son équipe a manqué de l'allant et n'a pas pu vraiment prendre les trois points de la victoire. Cela veut dire que quelque part, la RDC, qui a fait une dernière bonne Coupe d'Afrique, est en train de continuer son petit bonhomme de chemin. Maintenant, s'il faut revenir sur les déclarations à Aliou Cissé, oui, il veut garder ses troupes, il ne veut pas qu'ils se dispersent, mais quand même, il sait pertinemment que la prestation de ces Lions n'ont pas été à la hauteur de l'attente du public sénégalais, même si ce public a eu du mal, même si le stade Abdoulaye a eu du mal à être rempli, parce que le match se jouait à jour ouvrable et tout. Mais moi, je pense que quelque part, qu'il y a eu une défaillance de la part des joueurs, comme je l'ai dit, qui n'ont pas été très, très accrocheurs face à la RDC.
Est-ce qu'on peut argumenter, parce que c'est le leitmotiv ici au Maroc, c'est la fin de la saison, les joueurs sont fatigués, il y a moins d'influx nerveux, il y a moins de jeu, il y a peut-être même moins d'enthousiasme. Est-ce qu'on peut invoquer la lassitude physique et mentale pour expliquer la possibilité de... Parce qu'on voit tous ces résultats des grandes formations qui ont surtout des joueurs expatriés.
Oui, c'est un tout, hein, c'est un tout. Il faut dire que, mais ça fait partie du calendrier, il faut faire avec. Les joueurs doivent intégrer, et ça aussi, ça doit être un travail de sap de la part du staff technique. Aujourd'hui, tous les grands staffs techniques se dotent de bons psychologues, et je pense que effectivement, les joueurs doivent intégrer dans leur tête qu'à l'issue de la compétition, de leur championnat respectif en Europe ou un peu partout, il y aura forcément, souvent, il y a des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou des éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'on doit rester professionnel jusqu'au bout, mais tel n'a pas été le cas. L'équipe du Sénégal n'a pas été du tout à la hauteur, et vraiment, on se pose des questions et ça risque de se compliquer davantage.
Alors, revanche à prendre dès ce dimanche contre les Mourabitounes, une équipe des Mourabitounes surprenante en Coupe d'Afrique. Impressionnante fausse au Maroc lors des dates FIFA, mais vaincue à domicile par le Soudan quand même.
Oui, ça va être une autre paire de manches, surtout que nous sommes des voisins, nous sommes frontaliers. Il faut dire que la Mauritanie a fait un faux pas à domicile contre le Soudan, contre toute attente. Aujourd'hui, elle va essayer de recoller les morceaux en recevant le Sénégal qui aussi va arriver les nez dans le guidon. Ils ne seront pas très. Et les Mauritaniens seront hyper motivés parce que moi, je disais à un ami mauritanien, je suis convaincu que si on demande à la Mauritanie et de se qualifier à la Coupe du Monde ou de gagner le Sénégal, elle prendra le dernier aspect. Parce qu'effectivement, la Mauritanie n'est plus cette équipe qui croupait les Chines devant le Sénégal. Aujourd'hui, on a vu depuis 2013, le Sénégal a eu du mal à battre la Mauritanie. Et même si on me dira que c'est juste une équipe, les équipes de champ, les équipes locales, mais aujourd'hui, les Mauritaniens seront hyper motivés parce qu'ils savent qu'ils ont fait un faux pas et derrière, rien n'est perdu. S'ils parviennent à accrocher le Sénégal ici à Nouakchott, ce serait encore une très belle performance en vue de la suite de ces éliminatoires. Maintenant, ça va être un match piège parce que le Sénégal aussi ne se laissera pas faire, hein, parce que c'est vrai, c'est pas parce qu'on s'est trompé à domicile qu'on ne peut pas battre la Mauritanie. Non, loin de là, cette équipe du Sénégal peut battre n'importe quelle autre formation dans ce monde.
Merci infiniment, Bakary. On se retrouve samedi prochain pour faire le point sur ces éliminatoires et faire un premier bilan après exactement 4 journées d'éliminatoires de la Coupe du Monde. Zone Afrique, il est 10h27. Alors, prochaine escale, où est-ce que nous devrions aller? Je rappellerai juste que le Sénégal donc se déplace ce dimanche à Nouakchott pour affronter la Mauritanie, qui est qu'au même moment... Il y aura également une belle confrontation entre la RDC et le Togo. Et pour l'instant, le bal est mené, ou la course est menée par le surprenant Soudan qui a réussi à compiler 7 points sur 9 possibles. Allez, on va parler de la sensation de cette journée. Elle a eu lieu à Alger. Elle a vu la victoire du Sili National de Guinée face au Fennec d'Algérie. C'est la première victoire de l'histoire de la Guinée en déplacement en Algérie. Chérif Alio, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Et l'appétit est venu en mangeant après la CAN et on a vu une équipe de la Guinée qui a réparé un premier impair puisqu'elle rejoint en tête du groupe l'Algérie en attendant de recevoir à El Jadida au Maroc l'équipe du Mozambique.
Ah, vous l'avez dit, hein, le Sili donc qui répare un impair parce que le Sili avait perdu son second match face au Botswana 1-0. Mais là, la Guinée se devait de refaire leur retard face au premier du groupe qui est l'Algérie qui plus est en déplacement bien évidemment à Oran. Voilà, le Sili donc est allé s'imposer là-bas contre toute attente, hein, parce qu'avant ce match-là on donnait l'Algérie favori de la rencontre, mais c'était sans compter sur la détermination de Kaba Diawara et ses garçons. D'ailleurs, c'est la Guinée qui va ouvrir le score grâce à Morla Issila, lui qui fait son retour dans cette équipe du Sili, hein, à la place bien sûr de Nabi Keita, qui ouvre donc le score à la 50e minute. Malheureusement, les Guinéens vont se faire rattraper, hein, sur un autogol de Yasser Baldé, qui lui aussi faisait sa première avec la Guinée à la 52e minute de jeu. Et puis, Aguibou Camara sur une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation permet à la Guinée de repasser devant, hein, à la 63e minute de jeu. Score final 2-1 pour le Sili de Guinée qui douche donc l'équipe algérienne à domicile. Après, on sait que les matchs Guinée-Algérie ont été des matchs assez compliqués, hein, pour l'Algérie. Et puis on se rappelle déjà que lors des éliminatoires des JO de 68, la Guinée avait également barré le chemin à l'Algérie avec la bande de Chérif Suleiman, Pédessouri et autres. Et également en 2007, la Guinée avait battu l'Algérie et empêché l'Algérie de se qualifier pour la Coupe d'Afrique de 2008 avec des buts de Foly Mansaré et Pascal Feinduno. Et donc l'Algérie savait que la Guinée était une équipe à redouter. Et là, la Guinée a réussi en tout cas encore une fois à battre l'Algérie. Ce qui fait que la Guinée rattrape l'Algérie au classement, puisque là, nous avons quoi? Nous avons 4 équipes à 6 points dans ce groupe G. L'Algérie, 6 points avec un goal de plus 3. La Guinée, deuxième, 6 points plus 1. L'Ouganda, 6 points plus 1. Suivent derrière le Mozambique, 6 points. Le Botswana, 3 points. Et la Somalie, qui compte 0 points. Donc voilà, hein, c'était un groupe très, très serré où toutes les équipes ont la possibilité vraiment de se qualifier pour le tour suivant. Le lundi, la Guinée va disputer donc son quatrième match. Ce sera face au Mozambique. le Mozambique, hein, qui, je l'ai dit, il y a un quatrième avec 6 points. Donc, voilà, Amine, hein, l'espoir donc, du Chili, qui peut donc se permettre de rêver d'une qualification pour le Mondial pour la première fois.
Une qualification pour le Mondial qui passe par El Jadida avec ce match contre le Mozambique. Dans quel état d'esprit où on sent les troupes de Kaba Diawara pour ce match, puisqu'il y aura également en parallèle un Ouganda-Algérie qui risque de coûter cher au Fenech.
Ah oui, on va d'abord parler de ce match-là, Guinée-Mozambique. Hein. C'était un match piège, comme l'a dit Kaba Diawara. Faut vite oublier le match contre l'Algérie. Hein. Voilà, n'est pas resté dans l'euphorie de ce match-là, parce que je l'ai dit, hein, le Botswana avait surpris la Guinée, hein, sur le score de 1-0, et ça, Kaba le sait. Et voilà, les joueurs après le match ont affrété un vol spécial, hein, pour donc rallier le Maroc. D'ailleurs, il faut saluer au passage les supporters marocains qui étaient à fond derrière le Chili de Guinée. On a pu te rendre compte, hein, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est un match hyper important pour le Chili, parce que en cas de victoire, la Guinée pourrait donc prendre la tête du classement. Si jamais l'Algérie perdait en déplacement à Kampala face à l'Ouganda, puisque l'Ouganda est aussi en course, hein, pour la tête de ce groupe-là. Et côté guinéen, on est en confiance, hein, après donc cette victoire face à l'Algérie. Les responsables ont dégagé les moyens qu'il faut pour que la Guinée puisse faire engranger 6 points à l'issue de ces deux matchs-là, bien évidemment. Et donc, on espère que la Guinée va une nouvelle fois s'imposer le lundi pour essayer de rester en tête de ce groupe G.
Un match qui aura lieu à El Jadida, le public d'Oukali est invité à venir regarder cette belle confrontation que le Royaume du Maroc se fait le plaisir d'accueillir. Merci beaucoup, cher Chéri Fallio, et encore une fois, félicitations. Il est 10h32 minutes. Après la Guinée, nous devrions faire un saut en Côte d'Ivoire avec Elisabeth Goli. Ce sera dans quelques instants. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a battu difficilement le Gabon sur un but de Seko Fofana. Et elle poursuit son sans faute en tête de son groupe. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine. Bonjour chers auditeurs de la Radio Mass.
Alors, les triples champions d'Afrique ont gagné. Est-ce qu'ils ont rassuré face au Gabon?
Effectivement, les éléphants ont remporté, si je peux appeler, le duel avec les panthères du Gabon, parce qu'on sait que l'équipe gabonaise était venue vraiment avec pour objectif surtout de remporter ce match-là et puis vraiment tenir tête aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que les panthères ont commencé vraiment en trombe, ils ont commencé très 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 fort. On a vu dès les premiers instants Aubameyang qui dont le tir est passé juste à côté qui pour ouvrir le score, et ils ont rassuré. Effectivement, les Ivoiriens sont contents de cette prestation, même si le score il est maigre, même si le score il est maigre. Mais il faut dire que les Ivoiriens sont satisfaits de la prestation, parce que tout ce que les éléphants, tout ce que la Côte d'Ivoire recherchait, c'était vraiment de prendre les 3 points, se rassurer à la tête de ce groupe F. Et c'est ce que les éléphants ont fait. Le plus important, on a vu, bon, on sait que c'est la période des trêves, les joueurs sont fatigués après tout ce qu'ils ont produit et autres. Mais on a vu que ceux qui ont été retenus par Emes Faye ont fait une belle prestation. Seko Fofana qui marque le but.
Quel but, un but magnifique, plein lucarne.
Oui, voilà. Seko Fofana qui marque, Adengra qui a failli également, Aller et autres, vraiment c'était bon, Kosonou, vraiment. Tous ceux qui ont été sélectionnés ont vraiment prouvé qu'ils méritent d'être sur cette liste d'Emes Faye, surtout la première liste, la première véritable liste d'Emes Faye, parce que là, c'est la première fois que lui-même, il fait sa sélection, il appelle des joueurs, vraiment, ça a été, les Ivoiriens sont sentis satisfaits en général.
Et il faudra confirmer maintenant mardi, ce sera face au Kenya, au Malawi exactement, puisque le match est délocalisé, puisque le Kenya ne peut pas recevoir à Nairobi. Les 3 points seront impératifs, Elisabeth.
Oui, effectivement, avec cette détermination et autres, des éléphants à prouver qu'ils sont vraiment les champions d'Afrique à obtenir le ticket pour le Mondial 2026. Je crois qu'ils sont prêts aussi à aller faire, parce que même si ça ne se joue pas à Nairobi et que c'est à Blantyre, mais on dira qu'ils vont en terre étrangère, et les éléphants sont prêts à rassurer les Ivoiriens, ils sont prêts à confirmer leur titre de champion d'Afrique, et je pense que c'est ce qui sera fait.
Merci beaucoup, Elisabeth Goli, pour toutes ces explications. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui briguent une première qualification. La Côte d'Ivoire avait fait un 3 à la suite, 2006, 2010, 2014, mais depuis, il y a eu deux éclipses assez inquiétantes en 2018 et 2022. Il va falloir maintenant renouer cette histoire avec la Coupe du Monde et surtout vaincre ce satané signe indien qui a empêché la Côte d'Ivoire de franchir aussi le cap du premier tour du mondial. Merci beaucoup, Elisabeth. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Il est 10h36 sur Radio Mars. Est-ce qu'on est à Bamako, au Mali, avec Drissa Nyono? Bonjour.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Les Aigles du Mali recevaient le Ghana dans le match au sommet de leur groupe. On les attendait conquérants, on les a vus défaits à la toute dernière minute par des Black Stars qui avaient été que l'ombre de la grande sélection ghanéenne qui a fait l'histoire de la CAN, lors de la dernière CAN justement. Comment expliquer cette contre-performance?
Alors c'est difficile à expliquer, en tout cas pour les supporters qui pensaient que après avoir rempli le stade du 26 mars, les Aigles qui les avaient dessus à Abidjan il y a quelques mois allaient quand même se racheter et se réconcilier avec leur public. C'est la raison pour laquelle le billet a été mis à 1 000 francs CFA pour que le public sorte et que le stade 26 mars soit rempli pour soutenir les Aigles. Finalement, c'est une équipe des Aigles méconnaissable qu'on a vue au stade du 26 mars, même si le Ghana a eu des opportunités pour ouvrir le score lors des 45 minutes, mais c'est finalement Kamori Doumbia pour son 8e but en sélection, en 17 sélections, qui ouvre le score avant la pause. Voilà les supporters qui sont les Aigles qui sont rentrés avec cet avantage à la mi-temps. Les publics sportifs qui pensaient que les Aigles allaient revenir avec un nouveau visage, malheureusement, à la 56e minute, trois joueurs vont sortir et céder leur place, ce qui va, encore une fois, dénaturer le jeu des Aigles, finalement, qui seront égalisés, et le but qui va être égalisé par Ernest Enouma à 2 minutes plus tard après le changement du sélectionneur Eric Sekouchel. Alors, vu les entrées de Kiki Kouyaté et d'autres joueurs comme Nenad Dortilès pour apporter du punch devant, et la sérénité derrière, finalement, c'est sur une erreur individuelle du défenseur de Montpellier, Boubacar Kiki Kouyaté, que Jordan Ayou va corser l'addition dans le temps additionnel pour vraiment crucifier ce stade 26 mars. Les Aigles du Mali, pardon, donc qui vont s'incliner encore une fois à domicile, mais ça, c'est la première fois depuis l'arrivée de Eric Sekouchel à 9 matchs à domicile. C'est sa première défaite, mais une défaite qui est arrivée franchement au mauvais moment parce que le public sportif qui a été dessus de la prestation de leur équipe a fini par les huer et les jeter des pierres. Et donc,
c'est pas normal quand même. Donc, siffler peut-être, jeter des pierres, c'est inconcevable. C'est impardonnable.
Exactement. Donc, en tout cas, le public quand même qui était mécontent a exprimé sa déception. Même après le match, quand les joueurs rentraient dans leur bus, c'était des cris. Voilà, il faut que vous mouillez le maillot, vous nous avez dessus. Ce sont des mots, en tout cas, que la plupart des joueurs quand même ont entendu. Et donc, finalement, en tout cas, le moral quand même n'était pas au beau fixe quand ils quittaient le stade 26 mars après cette défaite. En tout cas, il faut le dire, entre le Mali et le Ghana, c'est une longue histoire. C'était la 26e rencontre de l'histoire entre les deux formations et une 13e victoire du Ghana contre 4 pour le Mali et 9 matchs nuls. En tout cas, le Ghana qui va faire une bonne opération. Au même moment, les Comores vont être battus le lendemain. Hier, les Comores ont été battus par le Madagascar, ce qui relance encore le groupe. Et oui, les Aigles qui devraient quitter ici à 1h du matin. Finalement, le vol a été encore retardé pour mauvais temps. Et c'est à midi GMT ici à Bamako que les Aigles vont quitter l'aéroport international, le président Mouribo Keïta, pour prendre la direction de l'Afrique du Sud et de Johannesburg afin d'aller affronter cette équipe de Baria mardi à partir de 13h GMT.
Une rencontre que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Madagascar à 6 points, les Comores également. Le Ghana est 3e avec le même total de points. C'est le Mali qui est pique un peu du nez avec un bilan mitigé, une victoire, un nul et une défaite, 4 points seulement. Il va falloir rattraper le coup face justement au Barea de Madagascar. Une rencontre qui promet, où il va falloir éviter la moindre erreur de Drissa Nyono.
Exactement, parce qu'ils sont attendus, hein, surtout le coach qui continue, hein, à utiliser son système de 4-4 dans l'urgence, qui devient, en tout cas jusqu'à présent, incompris par ses joueurs. À un moment donné, à la CAN, on pensait qu'il avait trouvé son équipe, que l'équipe avait également compris le système. Finalement, après cette défaite face à la Côte d'Ivoire, il y a eu une victoire face à la Mauritanie, une autre victoire face au Nigeria, qui a fait taire certains sceptiques. Mais finalement, contre le Ghana, encore une fois, les uns et les autres ont commencé à demander, surtout dans les interviews, au coach de changer de système et d'aller vers un autre système. Si son 4-4-2 devient toujours incompris par ses joueurs. En tout cas, les Aigles sont obligés de réagir afin de ne pas laisser les autres s'échapper en tête du tableau, parce qu'une victoire contre le premier de la poule, qui est le Madagascar, pourra encore les mettre dans une position confortable avant les éliminatoires de mars, encore lors des 5e et 6e journées de ces éliminatoires. En tout cas, ils sont attendus et ils sont obligés de réagir. On va voir, après les cris de déception des supporters, et surtout les journalistes, hein, qui ont vraiment exprimé, certains surtout, leur colère en conférence de presse sur le sélectionneur national. Et donc, ils sont tous attendus, que ce soit le staff et les aigles, pour réagir. Sinon, en tout cas, ce sera encore un fossé qui va se creuser entre les aigles du Mali et leurs supporters.
On ouvre la parenthèse des préparatifs pour les JO. L'équipe du Mali U23, qui est qualifiée pour l'édition de Paris, a été accrochée par l'Ouzbékistan, un but partout. C'est la première des deux rencontres amicales prévues lors de cette parenthèse FIFA pour les Aiglons.
Exactement. Alou Badra Diallo Conti, hein, qui a fait appel à 22 joueurs pour la continuité. En tout cas, cette liste, c'est 22 joueurs qu'il a convoqués. Il y a 3 joueurs seulement qui ont été remplacés numériquement, parce qu'il y a le retour de l'attaquant Cheikh Ndiakhté, qui a pris la place au milieu en attaque, hein, de l'attaquant de Tout-Puissant Madabé, Chef Omar Fofana. Et ensuite, Fadi Koulibaly, le milieu défensif du Stade Malien de Bamako, qui a remplacé Cheikh Ndiakhté, un joueur de l'AS Héral. Et Hassan Diarra, qui a pris la place de Lassine Diarra, le gardien titulaire de cette formation, qui a mal au doigt. En tout cas, Alou Badra Diallo Conti a quand même mis 11, encore une fois, qui est censé être l'équipe, hein, entre parenthèses, de cette formation, même si elle a eu des difficultés lors des 45 premières minutes avant d'encaisser le but ouverture. Mais finalement, avec du caractère, comme elle a toujours été, cette équipe, elle va égaliser par l'intermédiaire de son capitaine Boubacar Traoré, qu'on appelle ici El Fino, finalement un match nul. En tout cas, qui est différent quand même d'une défaite, même si ça rentre dans le cadre de préparation. En tout cas, c'était quand même une bonne équipe qui a réagi. Et cette équipe, c'est son caractère également qui est apprécié ici par le public sportif malien, qui a vraiment apprécié son retour de VCR pour égaliser, encore chercher à marquer les second but, même si malheureusement ils n'ont pas pu. En attendant, ce deuxième match, le 10 juin, en tout cas, les Aigles Espoirs quand même se préparent convenablement avant le rassemblement ici à Bamako à partir du 24 juin et la liste qui va être publiée le 3 juillet et le départ à Paris le 8 juillet prochain.
Merci infiniment Drissa Nyono pour toutes ces explications. Elles ont le mérite d'être claires et de mettre le doigt là où ça fait mal pour les Aigles du Mali, qui ont été défaits de manière surprenante par le Ghana à Bamako, et surtout ce qui attend à Soccer City. L'équipe malienne, ce sera mardi prochain. Allez, on va aller vers le Cameroun avec notre ami William Tchango. Alors le Cameroun, c'est un long feuilleton. C'est un bras de fer qui dure depuis de très nombreuses semaines entre le ministère de tutelle et la FECAFOOT. L'État camerounais a désigné Marc Brice comme sélectionneur à l'insu de Samuel Eto'o-Fils. Ce dernier n'a pas apprécié cette décision, a essayé de mettre des bâtons dans les roues en nommant son propre staff technique. Depuis lors, de négociations en palabre, en passant par des rencontres de conciliation, il n'y a pas eu de point d'accord entre les deux parties. Et du coup, on se retrouve devant une tragique comédie qui nous pousse à nous demander, est-ce que finalement, ce soir, à partir de 14h, le match contre le Cap-Vert va avoir lieu. Et avec quel staff technique, William Tchango, peut-on éclaircir un peu les points de cette tragique comédie qui n'a que trop duré ? Bonjour.
Alors, le mélodrame que vit le football camerounais en ce moment n'est pas pour moi une très grosse surprise. Donc, je pense que cela était prévisible, d'autant plus que Samuel Eto'o, en prenant la fédération, devait jouer un rôle très important, devait jouer un rôle capital, un rôle de premier plan dans la gestion du football camerounais et plus particulièrement des Lions Indomptables. Et on sait qu'à chaque fois qu'il a été au cœur des Lions Indomptables, qu'il a joué un rôle clé, un rôle majeur au sein des Lions Indomptables, il a toujours cristallisé la division, il a toujours cristallisé les clans et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est davantage un problème d'ego, parce que Eto'o, il incarne, on l'a dit, un ego surdimensionné, comme l'avait relevé à l'époque un ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun, en la personne de Michel Jouzoua, après la débâcle à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est davantage parce que en face de l'État du Cameroun, du gouvernement camerounais, il y a un homme qui s'appelle Eto'o et qui tient à son ego en quelque sorte. Donc parce que en réalité, ce qui se passe aujourd'hui avec le désaccord qui se passe aujourd'hui avec la désignation de Marc Brice comme sélectionneur et avec le staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation, John Physique. C'est un peu surprenant parce que en réalité c'est le même mode opératoire qui avait été utilisé pour désigner Rigobert Song et son staff qui avait à l'époque été proposé par Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o lui-même, il a affirmé dans une intervention à France 24 récemment que au Cameroun, la spécificité du Cameroun, c'est en fait que c'est le gouvernement qui a le dernier mot sur la désignation de l'entraîneur, du sélectionneur et du staff des Lions Indomptables. Donc quand vous tenez ce discours et qu'après vous vous campez en dites-vous accrochant sur le décret du 26 de 2014 et alors qu'après il y a une convention qui dit effectivement, qui dit clairement que les Lions Indomptables sont co-gérés par, en quelque sorte, hein, par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui est clair, c'est que il est clair aussi que Eto'o n'a pas tort à tous les niveaux, parce qu'en réalité, la désignation de certains responsables, notamment la coordination des sélections nationales, le coordonnateur, en réalité, le privilège de nommer un coordonnateur de sélection revient, si je m'en tiens à ces textes-là, exclusivement à la Fédération camerounaise. Sauf qu'on a atteint un niveau où on est davantage entré dans une guerre de clans, une guerre d'égo, où personne ne respecte plus rien, à commencer bien sûr par cette Fédération camerounaise de football qui, depuis plusieurs années, foule au pied un certain nombre de principes, un certain nombre de lois, de textes régissant à la fois la gestion du football camerounais et la gestion des Lions Indomptables. Donc aujourd'hui, c'est la loi du plus fort qui est là et c'est une bataille, il faut le relever aussi, qui se joue au sommet de l'État entre des pontes du régime qui s'affirme et qui sont en guerre. Donc je pense que C'est pas pour aider la sélection camerounaise la sélection du Cameroun qui est engagée à cette compétition, cette qualification pour la Coupe du Monde 2026. On sait que cette équipe a présenté un piètre visage lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On sait qu'à la Coupe du Monde, elle n'a pas pu franchir le premier tour. Donc, il y a eu notamment aussi ce discours du chef de l'État le 10 février. À la jeunesse, il faut toujours rappeler cela parce que c'est d'où part justement toutes les initiatives du gouvernement à travers le ministre des Sports et l'Éducation physique. Il y a quand même ce discours-là du 10 février qui faisait savoir qu'en raison des mésaventures, en raison justement des piètres performances enregistrées ces derniers temps par l'équipe nationale du Cameroun, il était question que le gouvernement reprenne les choses en main à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Parce qu'aujourd'hui, quand on se lance dans les débats qui ont cours, on oublie ce discours-là, dans le sillage duquel toutes les décisions ont été prises par la suite par le gouvernement et ces décisions qui, aujourd'hui, font l'objet justement des vives contestations de la Fédération camerounaise de football. Donc on espère tout simplement que ce Capharnaüm-là va cesser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et surtout que ça ne va pas perturber justement la prestation des Lions qui ont besoin d'une victoire face au Cap-Vert pour maintenir la cadence dans ce groupe dont ils étaient les leaders avant ces deux journées qui se profilent. Donc, c'est regrettable pour un football camerounais dont on estimait, on espérait voir retrouver sa grandeur telle que l'annonçait, bien sûr, Eto'o Fils lors de sa campagne pour devenir président de la fédération. Mais ce qu'on remarque, c'est que depuis son arrivée, il y a quand même pas mal de polémiques qui se multiplient. Il y a quand même pas mal de mélodrames qu'on vit. Il y a tellement de scandales qui se multiplient autour du football camerounais. Et on ne sait pas si ça va continuer ainsi, mais toujours est-il, c'est que ce constat est là et ça ne donne pas l'image du football camerounais et surtout de la légende qu'il est, parce que généralement impliqué dans ce qu'on pourrait considérer comme étant des coups foirés.
Coups foirés ou coups foireux. Merci beaucoup William Tchango. Je rappelle que des fois en Afrique, sur notre continent, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. D'ailleurs, c'est ce qu'a dû comprendre Marc Brice, puisque l'on se dirige vers un staff mixte aux dernières nouvelles selon Canal 2 International. Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables a envoyé hier au commissaire de match mandaté par la FIFA la liste des joueurs et membres de staff qui prendront place sur le banc face aux requins bleus du Cap-Vert. On trouverait sur cette liste David Pagou, adjoint numéro 2 dans le staff version FECAFOOT. Narcisse Tinque, préparateur physique version FECAFOOT. En revanche, pas de place pour Martin Pilet, l'adjoint numéro 1, ni Idriss Kamini, le préparateur des gardiens de but, ni le team presse Germain Noël, ni le coordinateur général, qui sont tous estampillés fédération. Donc, on pourrait se diriger vers cette solution assez boiteuse, mais qui pourrait arranger Marc Brice, qui aurait pu se retrouver sans assistant lors de ce match contre l'équipe nationale du Cap-Vert. Voilà, le match est prévu au stade Ahmed Ouhidjo de Yaoundé, aujourd'hui à partir de 14h, 13h GMT. Merci de votre fidélité. Nous touchons à la fin de ce rendez-vous avec Mars Africa à 10h55. Nous aurions aimé également voir le son cloche de notre ami Ahmed Adala et celui évidemment de Jean-Modeste Ouedraogo avec ses défaites du Burkina Faso devant l'Égypte. Mais ce sera que partie remise, puisqu'on vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure pour faire le point sur toute l'actualité du sport africain, en particulier du football. Passez un bon moment famille, passez un bon moment avec vos amis. Et à samedi prochain, dans quelques minutes, il n'y a pas que le foot, mais Kenchrel Kora. Bonne fin de week-end en compagnie des programmes de Radio Mars.
game, it got us more.